Bonjour, je m'appelle Martine Podesto et je suis directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Aujourd'hui, je me suis retrouvée au café chez l'éditeur, pas très loin de la table où étaient assis Stéphane Dompierre et Justin Laramé. Stéphane, auteur de plusieurs romans, dirige la collection La Chope chez Québec Amérique. Justin est surtout connu au théâtre où il a joué, écrit et mis en scène plus d'une quarantaine de pièces depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Il vient tout juste de faire paraître un premier roman, 4 Mélanie et demie, qui a été édité par Stéphane.
4 Mélanie et demie, c'est-tu de la chiclet?
Aïe, aïe, aïe. Ben, j'ai l'impression qu'il y a des codes de chiclet qui sont pas tout à fait respectés dans,
certains codes.
Dans ton livre. On parle plus de chasse que de magasinage, déjà.
Oui.
Y a pas une fille un peu cocotte qui s'enfarge, tu sais, dans les bandes-annonces de films de chiclet.
Oui.
Ça prend tout le temps une fille un peu flaky qui s'enfarge dans quelque chose qui tombe à terre. Ça, c'est un grand classique.
Ouais.
T'en as pas qui tombe à terre dans ton livre.
Et y a
j'ai hésité longtemps. Je me suis dit, j'en fais-tu mettre une?
Ouais.
Si on veut vraiment comme pouvoir appeler ça de la chiclite, là, mais...
Puis je pense que tous les personnages féminins se foutent éperdument d'une quelconque relation avec les hommes.
Oui.
Elles sont surindépendantes. Elles veulent même, à la limite, utiliser les hommes uniquement pour le sexe, pour ensuite passer à autre chose. Ouais. Elles sont pas du tout dans l'émerveillement amoureux.
Non,
et
pas du tout.
Dans les papillons.
Ouais.
Il n'y a pas de papillons, là.
Non.
Ouais.
Un roman, Justin Laramé.
C'est-tu un roman, Stéphane? Je sais
C'est-tu plus. C'est-tu un roman?
je viens de lire le communiqué de presse, puis là, ça dit que c'est un roman, ouais. Fait que ça m'a rassuré.
J'ai la misère à définir ce que tu fais.
Moi aussi.
C'est dans la collection La Chope.
Mais déjà, c'est ça.
Déjà, ça clarifie certaines choses.
C'est ça.
Mais ensuite, je sais pas comment les gens vont... En fait, c'est simple puis compliqué en même temps. On dirait que c'est un peu comme, tu sais, t'as des bands qui se font demander la question, c'est quoi votre style?
Ouais.
Puis je pense que pour le band, c'est toujours bien compliqué de décrire son style. J'ai l'impression que c'est ça avec toi. Dans le fond, peut-être que t'aurais bien de la misère à le décrire, mais quand tu le lis, ben c'est clair, c'est quoi, là? C'est comme...
C'est un livre.
C'est quatre belles histoires qui ont un lien ensemble au départ, là.
Exactement. L'oralité, ça reste un livre, mais l'oralité demeure. Tu sais, je pense qu'on sent un peu le côté auteur de théâtre derrière tout ça. Là, tu sais.
C'est ça.
Mais en même temps, on est très loin de du théâtre, parce qu'évidemment, il n'y a pas de dialogue. Tu sais. Fait que, c'est ça. Moi, je suis très fier de ça. Parce que moi, je n'avais pas vu en amont quand on s'est vu au Zoo Fest, puis que tu m'as entendu lire un passage de cette affaire-là.
Où j'en pleurais de rire.
Où t'en pleurais de rire. Je comprenais pas pourquoi tu voulais ça dans ta collection. Mais moi, je me suis dit, j'ai un fou d'une poche. On me propose habituellement, tu sais, les manuscrits s'accumulent sur la table de l'éditeur. Puis là, c'est un éditeur qui vient de voir, qui dit, non, écris-moi donc un livre, toi. Mm-hmm. J'étais comme, je sais pas trop c'est qui ce gars-là. Fait que c'est ça, j'espère que ça va être pris pour ce que c'est.
Ouais.
Des bonnes histoires, une bonne langue, un livre le fun à traîner, consulter, quelques heures dans une vie à côtoyer une langue, à côtoyer des histoires, des images, puis redonner un peu de souplesse à tout ça. Mm-hmm. On peut être n'importe qui.
Parce qu'on a parlé longuement en travail éditorial, tu sais, tu donnes la voix à quatre femmes qui sont vraiment un peu tout croche, là, toute la gang.
Mais c'est sont tout croche dans leur puissance. Mm-hmm. C'est ça que j'aime. C'est que c'est pas... sont normalement tout croche, comme tout le monde est un peu tout croche. C'est évidemment, c'est des histoires. C'est des... c'est exagéré. Ouais. Certaines failles sont exacerbées, mais il y a pas... C'est ça qui est intéressant dans les histoires, je veux dire. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Si le personnage est lisse, il n'y a pas d'histoire non plus. Fait que ce que je trouvais cool, c'est de mettre des femmes puissantes, des femmes modernes, avec leurs défauts.
Ouais.
Comme si, aujourd'hui, quand un homme parle au jeu féminin, déjà là, 2018, un homme qui parle au jeu féminin, je pense que... Comment dire? C'est les femmes que moi, je connais.
Ouais.
C'est les femmes que je connais en 2018. Mm-hmm. Fait que pourquoi moi, je pourrais pas prendre cette voie-là?
Ouais, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je regarde ce livre-là sous plusieurs angles. Des fois, je me dis comme, ça va peut-être choquer, tu sais. Puis, pour moi, c'est pas une qualité dans la mesure où tu as écrit un livre, tu es un auteur masculin qui a écrit des personnages féminins, ça devrait pas être choquant. Je dis, de tout temps, la littérature, on a joué des rôles, on a inventé des personnages. Je veux dire, si moi, Stéphane Dompierre, comme auteur, je suis obligé d'écrire des personnages blancs de mon âge qui ont vécu où j'ai vécu, ben c'est ça donne plus rien d'écrire. T'sais. Donc, il y a quelque chose là-dedans que...
C'est, on vit dans un temps où ce genre de livre-là, puis là, c'est pas du tout, je parle pas du tout de sa qualité ou de ses défauts, mais le fait de se permettre ça est important présentement, est très important.
Ouais.
Et cette discussion-là est très importante, puis j'espère qu'on va, on va me poser des questions auxquelles j'aurai probablement pas de réponse, parce que finalement, le premier rempart de tout ça, c'est j'ai écrit un livre avec des personnages complexes qui ça donne à être des femmes.
Ouais.
C'est pas plus compliqué. Ni plus simple que ça. Mm-hmm.
On a travaillé beaucoup quand même sur ce texte-là. C'est drôle parce que je te disais que c'est la première fois que je faisais du travail éditorial de façon aussi intense, mais en me posant jamais la question de dire « Es-tu en train de trop m'immiscer dans son texte? » Dans la mesure où j'avais l'impression que tu étais très « willing » puis c'est toi qui avais la décision au bout, tu sais, que tu ne sentais pas comme chamboulé là-dedans. Tu sais, il y a des fois que tu fais des propositions éditoriales à des auteurs, puis tu vas dire comme, hey, il me semble que j'en demande beaucoup. Là. Tu sais, vas-tu me demander, ben, qu'est-ce que tu aimais dans mon livre, finalement, tu sais. Alors que toi, au départ, je disais, la base était bonne, mais on a travaillé, on a retravaillé.
Ouais.
On a beaucoup travaillé à l'oral aussi. Tu sais, moi, je fais ça quand.
Surtout 4000 ans et demi, je pense que ça puis, s'applique.
Oui, ça s'applique beaucoup. Mais tu sais, moi, c'est là que j'ai commencé à repérer dans mes textes les longueurs. Les longueurs, quand l'éditeur te dit c'est un peu long le chapitre-là, puis tu sais, tu lis debout chez vous en t'imaginant que tu lis devant une salle, là, et là, tu commences à comprendre c'est quoi la longueur, là, à quel point c'est plate. Des fois, juste des petits mots qui n'ont pas rapport. T'sais, moi, j'aide beaucoup les auteurs à enlever les petits mots qu'ils placent là comme je sais pas pourquoi. T'sais, c'est comme des petits mots valises qui se placent, mais qui servent à rien, dans le fond, que tu peux enlever de
là. Des scories, là, vois-tu, encore une fois, comme acteur, si on fait le parallèle, c'est la même chose. Il y a des gestes qui sont là, il y a des béquilles qu'on appelle, qui finalement, tu peux juste te tenir là, puis dire les phrases quand tu es à la bonne place au bon moment, ben tout le monde comprend et tout le monde vit la même chose que tu essaies de leur faire vivre. Mais pour revenir, c'est vraiment... Là, on a travaillé dans la densité, en fait. C'est un petit livre dense.
Ça pourrait pas être 400 pages, ce livre-là. Là.
Non.
Ça serait trop...
Ça serait
une indigestion, carrément.
Ce serait trop dense. Ouais. Ce serait trop intense et trop dense. Fait que on a travaillé fort, puis on a travaillé dans la précision.
Ouais.
Puis je pense, tu sais, pour refaire encore un lien, parce qu'on dirait qu'on a un lien ici qui est intéressant. Moi, comme acteur, quand le capitaine du bateau, le metteur en scène, sait où il s'en va, je dis oui à tout.
Ouais.
Puis c'était le cas là.
Ah, fait que tu pensais que je savais où je m'en allais. C'est bon, ça.
Mais en tout cas, plus que moi, ça, c'est sûr.
Bon acteur. Tu l'as vu. Je pensais pas que j'avais des talents.
Ben oui, parce que tu fais... Moi, je le sais, mettons, quand je vois, par exemple, les éditeurs chez Atelier 10 travailler, tout ça, tu sais, 9 fois sur 10, la proposition est... doit être considéré. 10 fois sur 10, ça doit être considéré.
Oui.
Puis, je te dirais 8, 9 fois sur 10, l'éditeur a raison.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut vraiment faire confiance. Puis au théâtre, comme encore une fois, c'est un art collectif, t'es pas tout seul en train d'écrire devant ton ordinateur. Le travail de l'éditeur est absolument nécessaire.
Oui.
On peut pas écrire un livre tout seul.
Oui.
Ça s'écrit pas tout seul, un livre. Ça prend quelqu'un, ça prend quelqu'un qui lit, qui relit, puis qui remet en question, qui précise, qui pose des questions. Fait que... mais vois-tu, tantôt Martine qui était là, c'est la première personne extérieure à nous qui l'a lu, puis tu sais, déjà là, on se fait « Ah oui, on va me parler du livre
».
Ça, c'est étrange. Tu sais, moi, mettons, quand je fais un show, quand j'écris au théâtre, quand je fais une mise en scène, ou surtout quand je joue, je pouvais partir des loges, puis genre, de rentrer dans le traboulidon, puis rentrer à la maison, ce serait l'idéal. J'ai pas envie de parler aux gens après. Eux, ils ont envie de dire bonjour, bravo.
Ouais.
Moi, j'aurais envie de descendre, puis faire genre, hey, Pacioretty, vas-tu rester, tu penses, ou il va s'en aller. Tu sais, j'ai pas du tout envie de parler de l'œuvre, du spectacle. On dirait que ça leur appartient.
Ouais.
Mais là, avec le livre, ça va être.
C'est ça qui doit être dur aussi pour l'auteur de théâtre. C'est-à-dire, toi, tu fais une pièce, tu vois les gens, là, tu vois la réaction, tandis que là. La réaction, tu le sais pas. Tu vas lire des critiques, des blogueurs, des blogueuses qui vont en parler, qui vont dire qu'ils ont passé un bon moment, mais t'as pas vu ce bon moment-là se dérouler. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est une partie de deuil que t'as à faire aussi. C'est très abstrait. T'sais, moi, je le sais que entre mon premier roman qui a vendu énormément et d'autres qui ont moins vendu, pour moi, il n'y a aucune différence au quotidien, sinon évidemment dans le chèque à la fin de l'année que tu reçois de droit d'auteur, mais dans la vie quotidienne, c'est très abstrait de dire j'en ai un qui marche, j'en ai un qui marche moins. Ça n'a aucune incidence, tu le vois pas.
Non.
Tandis que, je veux dire, une pièce de théâtre où tu voulais que les gens rient à ce place-là, puis personne ne rit, ben tu le sens. Là.
Même qu'on réajuste avec cette mécanique-là, ouais. Là, on invite des gens justement pour...
On peut pas réajuster après.
On peut pas. Il est là, il est parti, mais on a travaillé très fort, on a bien travaillé, comme on disait tantôt, dans la précision, la densité.
Ouais. Ouais. Tantôt, on parlait des romans qui passent dans le beurre, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Comment tu vivrais ça, toi, le tien qui... Parce que moi, c'est tout le temps ça que j'ai tout le temps de la misère comme éditeur, en fait, parce que j'accompagne l'auteur. Tu sais, je l'appelle pour dire qu'il va être publié. Tu sais, j'en ai appelé une hier qui pleurait au téléphone de joie. Tu sais, je trouve ça merveilleux. J'avais fait une proposition éditoriale. On va travailler le livre ensemble. Puis comme éditeur, ce qui est quand même un métier nouveau pour moi, j'ai vraiment une impression d'abandon de mes auteurs le jour où le livre sort, parce que j'ai plus rien à faire techniquement. Tu sais, la promo, ben c'est l'auteur, c'est l'équipe commerciale, tu sais, tout ça. Fait que le placement en magasin, tout ça, ça se passe, ça se passe pas. Je peux pas aller dans un magasin et dire, ben prenez-en, c'est bon, tu sais.
Mm-hmm.
C'est comme, c'est pas ma job. Tu sais, donc, j'ai une impression d'abandon de l'auteur, tu sais, qui est un peu livré à lui-même soudainement. Et si ça vend pas, ben je peux rien faire. T'sais, moi, j'ai l'impression que j'ai sorti avec l'auteur un livre au maximum de notre potentiel. Et dans ma tête, il est bon. Et ça veut pas dire qu'il est pas bon parce qu'il vend pas non plus. T'sais, c'est ça qui est terrible aussi. C'est pas. J'ai l'impression qu'il y a des industries où les choses bonnes se vendent, les choses mauvaises se vendent pas, mais c'est pas ça dans l'art, pas du tout.
Mais ben vois-tu, ce qui est absolument terrifiant avec tout ça, qu'il faut pas trop y penser, c'est la chose qui me fait le plus peur,
ouais.
C'est qu'il passe dans le beurre,
ouais.
Et la chose la plus probable, c'est qu'il passe dans le beurre. Fait que, en sachant ça,
ouais.
On s'ouvre une bonne petite bouteille de vin, puis on commence à écrire le prochain.
Mais t'as déjà commencé d'ailleurs.
J'ai déjà commencé.
Coquin.
Oui, faut battre la page pendant qu'elle est chaude. Oui, oui.
Puis mauvaise critique, ça.
Ben, si une mauvaise critique du livre, tu veux dire, ben, ils auront tort.
Ça auront juste tort.
Ouais. Mais non, évidemment qu'il y aura des mauvaises critiques. Il y a toujours des mauvaises critiques.
Mais penses-tu que ça risque de t'atteindre ou.
Si lu, si ça permet de. Si, mettons. Souvent, dans ce que je fais, les mauvaises critiques sont virulentes.
Ouais.
C'est que les gens se sentent personnellement attaqués. Donc, ça veut dire que ça réveille quelque chose.
Ouais.
C'est pas un livre immobile. C'est un livre qui crée du mouvement.
Ouais.
L'intention derrière le livre n'est pas de choquer, au contraire.
Ouais.
C'est de d'émouvoir, de faire rire et de donner le goût d'en lire un autre après.
Ouais.
Puis pas nécessairement du même auteur. Juste, moi, c'est ça qui me fait capoter. On parlait d'Andrea Michaud, que je connaissais pas. Je suis tombé sur
Bondré.
Je trouvais ça hallucinant.
Ouais.
Ça me donne tout de suite le goût de continuer à lire soit un autre livre d'elle ou un autre livre tout simplement.
Ouais, ouais.
Et c'est ça le plus important. C'est vraiment... Daniel Grenier, il a publié un essai l'an dernier, puis il disait que un auteur, c'est d'abord et avant tout un lecteur qui tend la main à un autre lecteur. On est une gang de lecteurs ensemble qui écrivons des histoires pour se raconter. Mais ça reste des lecteurs, ça reste la lecture, c'est ça qui est au centre. Donc, si le livre provoque ça, si quelqu'un est heurté par ce livre-là et quelqu'un lit ça, fait genre, mais pourquoi donc bien heurté par ce livre-là? T'sais, la lecture, on l'a fait, c'est un livre qui prend à peu près quoi, 3 heures à lire.
Ouais.
Fait que, on l'a fait ensemble ici au complet, à voix haute, du début à la fin. Fait que c'est ça. Allez voir, prenez-le, achetez-le. Il est beau. Au pire, faites comme beaucoup de gens font, achetez-le puis laissez-le sur la table de chevet 2 mois, puis on se mettait-le dans la bibliothèque, puis après ça, passez-le à un ami en disant que c'est excellent.
Exactement, le passage. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis de un bon livre va te donner le goût d'en lire un autre.
Ouais.
Parce que je sais que, tu sais, maintenant que tu as le choix, tu as des séries qui s'accumulent sur ton Netflix, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu viens de te taper un livre de 300 pages que tu as trouvé plate du début à la fin. Ben, tu vas peut-être pas prendre un prochain livre sur ta pile. Là. Tu vas te dire, bon, ben, on part dessus cette série-là.
Oui, exactement. Ça devient de plus en plus facile ne pas lire.
Oui. Ouais, comme auteur, on lutte contre beaucoup de choses. Là, c'est facile. Tout ce qu'il y a dans le téléphone est notre ennemi, en quelque part. Là.
complètement. Puis moi, de plus en plus, mes lectures se font de façon auditive. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup le livre audio. Mm-hmm. Je le trouve pratique quand je fais de la route, quand je fais du jogging. Ça m'a permis de découvrir énormément d'auteurs comme ça. Et donc, mais pour moi, c'est une façon de lire ça.
Ouais.
Pour moi, c'est une façon de lire parce que on est dans la littérature. Le premier que j'ai écouté il y a 2 ans qui m'a donné le goût d'en écouter plein d'autres, c'est sur Première Plus, je pense. C'est Alex Martin qui lit le prochain épisode du Barraquin. On écoutait ça, trois boys dans une petite cabane, dans le bois. Mettons, on fait le feu, on va se coucher, une nain qui voulait lire. Je fais comme, ben ça, on écoutait ça tranquille. On a passé 3 heures sans parler, à écouter. C'était absolument magnifique. Fait que, bref, peu importe la façon, le livre qui donne le goût de lire ou d'entendre d'autres livres, c'est lui qui est important.
Ouais.
Et j'espère que le mien va être dans cette mouvance-là.
Quand même que je raconte notre rencontre parce que c'est dû à toutes sortes de facteurs improbables.
En fait. Ouais, déjà on était dans un sauna.
Ouais, non. Bon, c'est pas de là que je voulais partir. Comme...
Excuse-moi.
Celui-là, je voulais pas en parler. Ma femme, en fait, Véronique Fontaine, qui travaille sur le comité innovation du Salon du Livre de Montréal. Bien évidemment, son mandat, c'est un peu d'amener des nouvelles idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener des visiteurs au Salon du Livre et un peu ouvrir la machine. Et elle avait proposé, en fait, une association avec le ZooFest. Et quand l'animateur Mathieu Quesnel a été décidé, elle lui a demandé, lui, connais-tu des gens, justement, qui pourraient un peu plus du milieu du théâtre, pas juste des auteurs de littérature, à venir avec nous. Elle a invité Mathieu Leroux.
Oui. Il y avait David Goudreau.
David Goudreau.
Il y avait quand même Guillaume Lambert. Ouais. Il y avait toi.
Ouais.
Il y avait moi.
Ouais. Ouais, cette soirée-là, effectivement. Donc, moi, ça m'a permis de rencontrer des gens de théâtre très drôles. Et quand tu es arrivé sur scène avec ton texte, c'est j'en ai pleuré de rire. Et Dieu sait que dans le travail éditorial, j'en pleurais de rire encore. Ça m'a vraiment frappé, en fait, à quel point... c'est pas évident de faire de l'humour écrit, en fait, parce qu'il y a un livrable là-dedans, tu sais, le stand-up comique, il sait où arrêter, il sait faire patienter le public, il sait comment jouer avec ça, tandis que le texte lu, parce qu'évidemment, tu faisais pas du stand-up, tu disais un texte que tu avais écrit... il faut que tu suives ton débit et que tu espères que tu as fait les affaires aux bonnes places, tu sais... Et je trouvais que tout était là. Fait que pour moi, j'avais l'impression, est-ce qu'on peut comme transgresser un peu cette forme-là? T'sais, j'ai vu, en lisant ton texte, j'ai vu que ça se pouvait. Et j'ai vu que tu étais ouvert aussi à ça. T'sais, donc, ça s'est passé assez facilement pour ça, la transformation quand même. Qu'on revient à ça, c'est quand même un objet un peu inédit dans une certaine mesure où c'est 4 nouvelles qui, dans ma tête, ça forme un roman aussi. C'est écrit dans une prose poétique où la coupure de la phrase, on a tellement travaillé là-dessus.
Tellement.
Et c'est le problème. C'est tout le temps ce qui me fait peur aussi de la poésie au niveau éditorial, de dire c'est très malléable. C'est-à-dire que tu dis on était dans la précision. Oui, c'est très précis le travail qu'on a fait, mais on aurait pu le refaire. On pourrait le prendre dans 6 mois et refaire des coupes ailleurs, réinventer certains passages qui voudraient dire complètement autre chose aussi. C'était dur, en fait, de dire « OK, ben on a fini. » C'est qu'on a fini une forme, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose... C'était un objet un peu plus malléable que l'est un roman dans sa forme la plus pure aussi.
Là. Je pense que oui. C'est très vivant, c'est très dense, c'est très explosif. Ouais. Et mais vois-tu... La dernière fois que je l'ai... Les dernières corrections qu'on a faites, ça faisait un petit bout de temps, là, que ça faisait 2-3 semaines, j'avais pas mis les mains dedans, puis là, tu me l'as renvoyé, puis t'as fait, OK, là, faut vraiment... faut que tu le relises au complet, puis t'es comme, oh non, j'ai pas envie de le relire, j'aimerais pas ça.
Ouais.
Et quand je l'ai relu, puis j'ai aimé ça, ça m'a instantanément soulagé.
Ouais.
parce que je m'attendais vraiment au contraire, parce que il y a des blagues que je trouvais plus drôles. Mm-hmm. Je doutais de certaines phrases. Ouais. Tu vois laquelle, mettons, qui est encore dans le livre, qui est à la fin, qui est dans la dernière Mélanie, puis j'ai encore peur de cette phrase-là. Ouais. Mais je pense que ce personnage-là peut dire ça. Ouais. Mais j'ai encore peur de cette phrase-là.
Je sais quelle phrase tu parles.
Tu sais de quelle phrase je parle.
Non, mais il y a quelque chose aussi de particulier. T'as-tu l'impression des fois de... T'es-tu demandé en écrivant l'impact de certaines scènes ou t'as-tu...
Encore une fois, il y a la phrase qui me fait peur. Mm-hmm. Mais je pense que ce personnage-là peut dire ça. Oui, quand j'ai compris, premièrement, dans le syndrome de Bambi, le premier texte, après l'avoir écrit puis réécrit puis réécrit, c'est vraiment, selon moi, le... C'était celui que j'aimais moins quand on a commencé. Ouais. C'est celui que j'aime le plus
beaucoup,
maintenant.
Ouais.
C'est juste que c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que finalement, c'est un texte qui parle du désir adolescent féminin.
Mm-hmm.
Mais là, je me suis dit, oh mon Dieu, je viens d'écrire ça.
Ouais.
Mais en même temps, c'est une bonne histoire.
Ben oui.
Et ça parle de puissance féminine, mm-hmm. ça parle de désir.
Ouais.
Et j'espère qu'on va le voir dans ce sens-là. J'espère qu'on va le voir comme... Oui. C'est une célébration de la sexualité féminine, de cette puissance-là. Fait que j'ai un peu nerveux.
Ouais.
Ouais.
Stéphane et Justin ont l'air d'être partis pour jaser encore longtemps. De mon côté, je vais en profiter pour aller relire le roman de Justin et voir quelle est cette fameuse phrase qui le trouble autant. Si vous êtes aussi curieux que moi, vous pouvez vous procurer le livre de Justin dès maintenant sur le site web de Québec Amérique. Je vous rappelle le titre, 4 Mélanie et demi. Chez l'éditeur est une production des éditions Québec Amérique réalisée par Philippe Collard. Notre thème musical est une composition de David Sestaille. Si vous aimez notre balado, laissez-nous un commentaire ou une note sur iTunes. Je vous invite à passer nous voir au Café littéraire chez l'éditeur, situé au 7240 rue Saint-Hubert à Montréal. Je suis Martine Podesto et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Chez l'éditeur.